Loz Actuali.
Loz Actuali.
Revue de presse.
Hashtag.
Portrait chinois.
Et bien sûr,
l'invité du jour.
C'est tout de suite dans Loz Actuali.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Loz Actuali. On ne vous a même pas laissé une semaine pour récupérer. Bonjour Caroline, bonjour Eric.
Bonjour tout le monde.
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà, on se retrouve pour une nouvelle émission aujourd'hui avec les foyers ruraux de la Lozère pour Contes et Rencontres avec Clara, la nouvelle animatrice des foyers ruraux. Bonjour.
Bonjour.
Valérie Bienfaisant et Julien Stout, conteurs, tous les deux, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, tout à fait.
Est-ce que j'ai dit comme il faut le nom ? Ça va ?
Oui, ça va. Très bien.
Bon. Bien, et bien tout de suite, dans cette l'émission va être un petit peu déstructurée par rapport à d'habitude, hein, puisque faut qu'on vous libère pour pouvoir que vous puissiez assurer tous les rendez-vous de cette journée. Donc on va avoir plutôt une partie d'interview au tout début. Évidemment, il y aura tout à l'heure des chroniques. Eric, tu nous parleras
D'une sorte de héros des temps modernes.
D'accord. Caroline ?
De TF1 qui fait sa mue.
Oula, mon Dieu.
Il n'y a plus de publicité, c'est la fin de la pub.
C'est ça.
Et puis, donc, il y aura la rubrique hashtag, il s'agira de neige et de Michelin 2018 pour les hashtags de la semaine. Et puis, la revue de presse, Eric, tu nous parleras.
Hashtag neige aussi un peu.
Mm-hmm. Caroline.
Hashtag Corse.
Ouais. Et pour moi, deux, hein, cette semaine. J'ai pas choisi, finalement. Ça sera un hashtag électricité et un hashtag gueule de bois. Voilà, tout ça sera tout de suite. C'était le sommaire et c'est parti pour cette émission.
Loz Actuali.
Allez, c'est parti, on commence cette interview de nos invités et on va parler un petit peu de ce festival Contes et Rencontres. Peut-être se rappeler un peu le concept, Clara, quel est le concept, quand ça dure, voilà un peu tout ça.
Alors, ce tout jeune festival.
Ce tout jeune, un peu vieux festival, puisqu'il dure depuis 1992, donc c'est la 27e édition. Donc c'est un festival au cœur de l'hiver sur toute la Lozère, donc pendant deux semaines avec des spectacles, plusieurs spectacles tous les soirs dans tous les coins de Lozère pendant ces deux semaines avec une soirée d'ouverture, une soirée de clôture, plus d'une dizaine d'artistes en tournée.
Ça se passe comment ? C'est la fédération qui organise avec les foyers locaux ?
Oui, voilà, donc c'est une coopération entre la Fédération des foyers ruraux et les foyers ruraux locaux. Donc en fait, ça se base énormément sur le travail des foyers ruraux locaux tout au long de l'année, sur leur public. Et la Fédération, elle s'occupe de tout l'aspect programmation et coordination de tout ça, puisque c'est quand même conséquent. Avec, oui, on a plus de 35 spectacles sur tout le festival. Donc voilà, elle organise tout ça et après, les foyers ruraux locaux gèrent chaque représentation.
Alors, ça a commencé déjà ?
Oui, depuis le 3 février, samedi dernier.
Voilà, donc on est dans l'activité. Est-ce que ça a bien commencé ?
Oui, une superbe soirée d'ouverture avec un magnifique spectacle de France Léa qui a eu beaucoup de succès, vraiment un succès unanime. Et ça a enchaîné, il y a eu trois représentations dimanche. Lundi, c'est relâche, comme tous les lundis. Et puis ça repart ce soir et jusqu'au 17 février.
Alors là, sauf ceux qui vont voir les classes, parce qu'il y en a là autour de la table.
Toi, t'es allé...
Ouais, moi je me suis fait maternelle hier pour aller écouter Julien au monastier.
T'accompagnais peut-être...
Non, j'accompagnais personne, j'étais une petite fille de maternelle, moi.
D'accord, très bien.
J'avais écouté ses contes coquins la veille au soir, donc je voulais voir comment il arrivait à passer du conte coquin pour adulte au petit conte gentil pour enfants.
Très bien, on en reparlera tout à l'heure. Ça a commencé, ça, donc 15 jours, donc il nous reste une dizaine de jours maintenant pour profiter de ce festival.
Oui, tout à fait. Jusqu'au 17 février, soirée de clôture à Langogne.
Avec quelques temps forts déjà cette semaine, hein, puisque dès jeudi soir et dès vendredi, deux gros moments du festival, hors spectacle on va dire.
Oui, donc jeudi soir, une rencontre débat autour de la question, d'une grande question, à quoi ça sert de raconter des histoires, avec l'intervention de Marc Aubaret, un ethnologue fondateur et directeur du CMLO à Alès, Conservatoire méditerranéen de littérature orale. Et donc ça, c'est pour lancer la journée professionnelle du lendemain, qui a lieu depuis plus de 10 ans sur le festival et qui réunit 8 conteurs ou duos de conteurs qui présentent chacun un extrait d'un de leurs spectacles devant des programmateurs et du grand public.
Et alors moi, justement, j'avais envie de poser cette question que vous posez jeudi soir à votre soirée débat, à nos deux conteurs. À quoi ça sert de raconter des histoires à l'heure où on est dans la super technologie, les écrans, les machins, et à quoi ça sert de raconter des histoires? Valérie, Julien?
Je dirais, moi, que ça sert à se retrouver, à se rassembler autour de contes qui ont traversé plusieurs milliers d'années et de retrouver une force. Je dirais que c'est pas que c'est dans la forme, je dirais que c'est dans le contenu et de ce que trimballent les histoires, en fait, que c'est important de continuer à les transmettre, parce que je pense qu'ils ont une importance quant à la psyché des individus, notamment, pas seulement les enfants. Voilà, j'ai envie de dire ça pour pas m'étendre non plus davantage.
Moi, je dirais, le boulot en soi du conteur, c'est surtout de faire vivre une histoire à quelqu'un, de l'emmener ailleurs que simplement l'espace où on est. Mais une des choses importantes, c'est quelque chose qui n'est pas strictement propre au conte. Nous, en tant qu'artistes, on est là pour faire vivre quelque chose ensemble. Pas seulement chacun dans son coin vivre son histoire, mais vraiment rassembler. Et donc, moi, je pense que le conteur utilise sa voix pour porter une histoire, mais il a vraiment réussi son truc si cette histoire ne lui appartient pas à lui seulement. Et je crois que c'est une mission très, très spéciale dans un monde, effectivement, aujourd'hui, où on a plein de communautés différentes, où tout le monde est bien séparé. On est fort éloigné, on est fort dans la particularité de chacun. Et essayer d'arriver à trouver une histoire qui fédère tout le monde, qui nous fait dire « Ah ouais, on appartient quand même en fait à un seul truc ». Ça, c'est un sacré boulot. Si pour moi, ça doit servir à quelque chose de raconter, c'est déjà peut-être à ça, quoi.
Et du coup, vous, c'est... Alors, je n'ai pas vu Valérie encore, mais pour vous, Julien, du coup, c'est très interactif avec le public, hein.
Ça peut, en tout cas. Alors bon, il faut respecter aussi la poésie de la chose, être à l'aise avec le fait que les gens vivent et répondent pas forcément toujours. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, surtout dans un événement comme celui-ci, hein, Conte et Rencontre, c'est quand même déjà dans le nom, hein. On est là pour aller de petits villages en plus grosses localités, pour rencontrer vraiment les gens. Et donc c'est important d'être disponible à ça, d'arriver, de dire déjà, commencer disant simplement bonjour. Les gens se sentent déjà... partie prenante de quelque chose. Et puis, effectivement, il se passe toujours un truc, il y a quelque chose de magique qui va être différent chaque soir, hein.
Voilà. Alors, la rencontre au foyer ruraux, c'est... alors, j'étais au Monastier, moi, dimanche soir. Le public n'était pas installé comme dans une salle de spectacle traditionnelle. On était déjà autour de la table avant le démarrage du spectacle. Ça sentait bon, la soupe, dans la salle. C'est ça aussi la rencontre, hein, au foyer ruraux.
Oui, l'aspect rencontre de contes et rencontres est vraiment primordial. Après, ça dépend de chaque foyer rural, la manière dont il l'organise. Donc, il y a souvent des soupes avant ou après. Il y a toujours un pot à la fin de convivialité pour qu'il y ait des échanges entre conteurs, public, bénévoles. Oui, c'est vraiment au cœur du festival.
Oui, c'est. Enfin, je vous donne l'expérience de ce matin en pause café dans ma structure. En fait, est venu la discussion du partage des différents spectacles que différentes personnes avaient vus ce week-end. Alors que voilà, on n'est pas une équipe très nombreuse, mais autour des 15 personnes qui étaient là à la pause café, il y avait plusieurs personnes qui étaient à la même soirée, mais d'autres qui étaient à d'autres. Enfin voilà, et le programme programme, se préparer pour le reste des 15 jours. C'est vrai que c'est un grand rendez-vous de l'hiver en Lozère avec les foyers ruraux. Est-ce que vous ressentez aussi pour vous qu'il y a une attente dans la population lozérienne?
Oui, c'est un moment attendu depuis 27e édition, donc ça commence à être connu, et puis bien connu et bien attendu. Et ça tombe aussi à une période où l'offre culturelle est moindre, où on sort globalement un peu moins de chez soi, donc c'est aussi attendu dans ce cadre-là.
Et les gens vont d'un spectacle à l'autre. On ne se contente pas d'aller à celui de son village.
Oui, il y a beaucoup de personnes qui vont à certains spectacles en dehors de chez eux, enfin, qui veulent vraiment voir. Après, c'est variable, en fait, évidemment, pour chaque spectacle.
Et c'est facile de faire venir les conteurs en Lozère?
Eh bien, c'est une grande logistique. Notamment tout ce qui est transport. Donc là, nos deux conteurs ici présents viennent de Belgique et donc ne sont pas véhiculés. C'est pas toujours évident après de les... Enfin, c'est une autre logistique sur place. Après, on demande beaucoup à ce que les conteurs viennent, même s'ils viennent de loin, viennent véhiculer. Ça évite une certaine gestion. Mais après, au-delà de ça, c'est un festival qui est quand même assez connu et les conteurs sont généralement contents de venir sur ce festival et en ressortent contents en général.
Avec cette année, une affiche globalement très renouvelée.
Oui, cette année, c'est que des conteurs qui étaient jamais venus auparavant. Ouais.
Vous aviez entendu parler de ce festival?
Ah oui, bien sûr. Hein, le festival Conte et Rencontre, il fait quand même partie des gros festivals. Alors, c'est quelque chose qui est courant dans le conte. Des festivals, moi j'appelle ça en décentralisation, où il y a plein de petits événements. Ça finit par faire partie des plus gros événements conte. Donc on est très très content de venir sur un événement pareil. Et puis voilà, on avait entendu parler de la Lozère aussi quand même, hein, au téléphone, on nous faisait peur. Vous savez, on disait non mais attention, tu arrives en Lozère, comme ça dans la région reculée. Bon, on arrive, on trouve que ça va encore, que c'est pas si terrible que ça, ça va.
Bon, on respecte.
Certaines routes qui sont pas accessibles, quoi. Certaines routes sont pas accessibles, ça c'est sûr.
Oui, c'est vrai qu'on a quand même un épisode neigeux.
Oui,
vous tombez
à un moment.
Un peu significatif cette semaine.
C'est tout le charme de Contes et Rencontres chaque année. Y aura-t-il de la neige ou pas?
Ouais, charme et logistique.
Est-ce que puisque vous venez tous les deux de Belgique, comment se porte le conte en Belgique? Est-ce qu'il y a ce genre d'événement qui existe?
Oui, bien sûr. Oui, il se porte assez bien, surtout que depuis le début de la saison, c'est en octobre que c'est passé, le conte est entré dans notre politique culturelle belge dans le décret des arts de la scène. Donc ce qui va susciter quand même des choses dans l'avenir, le temps que ça se mette en place, importantes. Notamment, évidemment, il y a des sous qui vont se dégager. Il y a des sous qui se sont dégagés au détriment de certains théâtres en Belgique. C'est un petit peu dommage aussi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais ça a permis à pas mal d'associations, notamment Julien et moi, on fait partie d'une association qui s'appelle Conteurs en balade, qui a pignon sur rue à Bruxelles. Mm-hmm. Et voilà, on a reçu des sous qu'on attendait pour pouvoir
qu'on fonctionne à peine attendre, il faut rien dire.
Voilà, parce qu'on fonctionne bénévolement en fait dans cette association, donc ça va permettre de payer quelqu'un. Mais on n'est pas la seule, hein. Il y a les grosses structures belges et bruxelloises qui n'avaient pas, certains n'avaient pas de contrat programme.
Oui, ou certains avaient moins. Et voilà. Donc, de manière générale, le compte se porte de mieux en mieux.
Il y a un gros festival en fait en Belgique qui s'appelle le festival de contes interculturels de Chigny. Donc ce qui représente, parce que vous demandez s'il y a un festival pareil, c'est celui, il me semble, qui représente, qui est le plus semblable à ce qui se fait ici en Lozère, bien que ça s'étend pas, ça reste dans le village de Chigny, mais voilà, c'est notre gros festival, quoi.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouvera ensuite justement pour faire peut-être un petit peu plus connaissance avec vous deux. Et puis on parlera des moments où on pourra vous retrouver dans cette programmation.
Alors moi je vais cafeter pour la pause musicale parce que Julien devait venir avec son ukulélé et puis il l'a oublié.
Voilà.
Alors voilà.
Mais j'ai deux titres. Alors je sais pas qui a choisi quoi, mais donc dites-moi un des deux. Vous avez, normalement il y a eu transmission de deux titres. Donc dites-moi.
Tout à fait.
Muse amoureuse.
Et ben voilà, on écoute. C'est parti.
pose nu dans une métaphore et métamorphose son poète en peintre. Elle plonge dans un bain parfumé en empruntant au printemps sa propre empreinte. Toi qui me regardes dans les yeux ce soir, tu seras cette muse, comme une étoile danseuse, sensuelle et en sueur au cœur d'une chorégraphie voluptueuse. Pour ne pas que l'horizon nocturne ne nous déçoive, je t'offre les fleurs de ma poésie d'une voix douce et suave. Mes mots se posent sur toi comme de jolis dessous de soie que je me ferai un plaisir d'ôter. J'ai la nuit pour parcourir ta peau et je te promets de compter le nombre exact de tes grains de beauté. Je me plonge dans ton bain et j'entends l'eau de pluie tomber. Correspondance des sables du désert, corps responsable des danses du désir. On dit que faire l'amour c'est ne plus sentir la différence entre donner et prendre du plaisir. Je t'écris une pleine page de caresses pour que même ta peau aime mes poèmes. Je t'ai aimé comme une muse émue dans un musée muet, le lendemain d'une nuit d'émeute. Depuis, quand ton prénom se prononce dans la pénombre d'un préau, sous les yeux d'une âme ou deux, les océans s'envolent vers le soleil guidés par la plume d'un poète peul et amoureux. Qui saura t'aimer mieux? Une question se pose, mon grand cœur saint te propose ces quelques rations de prose. Mais comment t'écrire l'amour comme il n'a jamais encore été écrit, sans vider des centaines de milliers d'encriers? Comment te dire le plaisir que j'éprouve sans crier? Mon miroir émotionnel a gardé ton reflet pour que tu deviennes sienne, un peu comme une parade nuptiale, quelque part sous le septième ciel. J'ai étudié l'oralité en remontant ses origines, pour faire de tes silences des zones érogènes. Pour toi, j'ai fait poser sur mes cordes vocales un tapis de velours, et j'ai fait traduire ton prénom dans ma langue. Tu t'appelles mon amour.
Alors on vous a pas posé, on vous a pas posé complètement la question avant l'extrait. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que vous vouliez nous faire découvrir avec cette chanson Muse amoureuse?
Souliman Diamanka, qui est un slammer, qui est pas un rappeur, c'est réellement un slammer, c'est un poète contemporain quoi. C'est un grand poète, voilà. Moi, il me touche, moi, ça me donne des frissons en fait de l'écouter. Il a une voix magnifique, vraiment, ça m'émeut énormément de chaque fois que j'entends cette poésie. Et que je sais pas ici en Lozère, en tout cas en Belgique et peut-être à d'autres endroits en France, ça s'étend de plus en plus le slam. Le slam, la poésie dite urbaine, et donc étant slameuse, faisant partie nouvellement d'un collectif de slameurs à Bruxelles qui s'appelle les Slameke, où on organise des scènes slam, donc ouvertes, hein, c'est la possibilité aux gens de venir dire, il y a des ateliers aussi, écrire ce qu'ils ont dans les tripes, hein. Alors ça peut être voilà de l'amour. Enfin c'est une façon aussi de montrer qu'il n'y a pas seulement de l'engagement violent ou haineux parce qu'on associe parfois le slam au rap et qu'il y a eu un rap. Il y a plus que ça. Il y a eu à un moment un rap un peu trop tendance fracassante, j'ai envie de dire, et qu'il y a pas il y a pas que ça. Mais il y a quelque chose qui vient du fond de soi-même, quoi. Une profondeur quel que soit le thème ou l'envie, quel que soit ce qu'on a envie de dire. Voilà, je trouve ça magnifique que les gens puissent s'exprimer, qui que ce soit. Quand on va au Sand Slam, enfin celle que je connais en Belgique, ça va de, il y a tous les âges, c'est inter et multiculturel, multigénérationnel, et c'est humain quoi, c'est beau, et c'est multigenre aussi, homme comme femme.
Merci, en tout cas.
Et donc, ça va être quoi la différence entre le slam et le conte ?
Ah !
Bah, y a une différence, on va dire, entre le conte traditionnel. Bon, bah, ça, c'est clair. Il y a une différence, c'est que le slam est contemporain, quoi. C'est toi qui vas l'écrire, c'est moi qui vais l'écrire. Ça vient de quelque part, bien sûr. On ne part jamais de nulle part. Hein. Donc, c'est de la poésie d'aujourd'hui qui partent d'un individu, d'une subjectivité, pas le conte, hein, pas forcément. Après, au jour d'aujourd'hui, comme disait Julien tout à l'heure, on raconte un petit peu... on peut partir de nouvelles, on peut partir d'un tas de choses pour raconter aujourd'hui, de récits de vie, il y en a de plus en plus. La différence est peut-être que... Bon, un slam est court, il y a des règles à respecter. Bien, voilà, je crois que Souleymane Diamanka... il fait un peu ce qu'il veut avec sa poésie. À partir du moment où on commence à mettre de la musique, ça peut durer 5 minutes, mais sinon, tu as une règle, ça doit être 3 minutes, parce qu'il y a des concours, slam, des compètes, etc. Voilà, je pense que... Il y a une différence où... après, c'est comme la différence entre le théâtre et le conte. Bon, bah, tout ça se tisse parce qu'on va retrouver de la poésie dans les mots qu'on va choisir pour travailler un conte. On va choisir des mots qui, si on aime le langage, si on aime les mots, bah, on va aller chercher des choses qui sont poétiques et chargées. Le mot le plus juste pour raconter ce qu'on a envie de dire. Et ça se retrouve dans, évidemment dans le conte. Mais ça dépend le conteur qu'on est, quoi. Donc c'est pas une différence tranchée comme le théâtre, comme le conte et le théâtre. Je pense qu'il y a pas, à faire de différence tranchée. Sinon on est dans l'étiquetage, le clivage et ma foi, il y en a assez ailleurs quoi.
Et pour vous, vous êtes à la fois, enfin, vous utilisez ces deux formes d'expression ou principalement le slam?
Oui, moi j'utilise les deux formes d'expression, d'accord. Même les trois formes, hein, parce que j'ai un parcours théâtral. Donc il y a tout qui se mélange un peu, sans problème.
Oui. C'est ce qui fait la richesse aussi du conte contemporain, on va dire, non ?
Ouais.
Ces mélanges...
Ouais. Bah, tu veux dire quelque chose à dire ?
Moi, je crois profondément qu'il faut utiliser le bon outil pour ce qu'on a envie d'exprimer. Donc en fonction de ce sur quoi on a envie de se pencher avec le public, on va peut-être piocher plus d'un côté, plus de l'autre, et au final... tout ce qui sert l'émotion, tout ce qui sert la rencontre, c'est tant mieux. Faut pas trop se demander, mais est-ce que ce que je fais, c'est vraiment du conte, ou est-ce que je suis en train de faire du théâtre, ou est-ce que je risque, mon Dieu, de verser dans le slam? C'est pas grave.
Bien sûr, voilà. Bien sûr, on est bien d'accord.
Voilà, donc effectivement, il y a des différences. Il faut quand même défendre les particularités de chacun, mais il faut surtout, je crois, revendiquer les points communs, les forces communes. Voilà, et se nourrir, même si on tient à rester dans une discipline, surtout pas hésiter à piquer les bonnes choses chez le voisin. Ça, je crois que c'est un des grands secrets pour avancer dans une discipline, c'est de pas hésiter à aller se nourrir ailleurs.
Qu'est-ce qui vous a amené tous les deux à devenir conteur et comment à un moment on se dirige vers ce métier-là, ou c'est, en tous les cas cette forme d'expression auprès du public? Qu'est-ce qui vous donne envie de ça ?
Moi, en tout cas, comme pour beaucoup de parcours, je pense qu'il y a d'abord le hasard. J'ai eu la chance de tomber sur le conte. Et puis, j'ai essayé de faire toutes sortes d'autres choses au fur et à mesure de mon parcours. Et je m'en suis rendu compte que le conte, simplement, contenait peut-être la quintessence, l'essentiel de ce qui me plaisait dans toutes les autres disciplines artistiques que j'avais touchées. Voilà, on raconte une histoire. Et comme je suis assez feignant... je me suis dit, au final, pourquoi essayer de faire un produit fini derrière cette histoire? Pourquoi pas simplement aller devant les gens et leur dire, voilà, j'ai pensé à un truc, je vais vous le raconter. C'est cette simplicité, moi, qui m'a appelé, surtout, d'être directement devant le public, pas devoir trouver des étapes de production. Non, voilà, on arrive devant les gens, on dit un truc, et si on n'est pas convaincu de la manière dont on l'a dit, on peut encore le dire différemment la fois d'après. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup plu.
Moi, j'ai l'impression d'avoir suivi un signe de la vie, parce que la première fois que j'ai entendu parler de conte, c'était dans mon parcours théâtral, comme j'ai fait pas mal de stages liés principalement au théâtre masqué. Et j'ai travaillé avec un homme qui s'appelle Tapas Udana, et qui, lui, dans son stage, proposait les contes aux stagiaires pour répondre à des questions que les stagiaires posaient. Parfois, ce sont des questions profondes. Bah, je le sais, comme je donne des stages et des ateliers maintenant aussi, et où on est un petit peu dépourvu parce que voilà, on n'est pas psy, on n'est pas
oui,
autre
on a pas
chose
réponse à tout.
Artiste, ouais. On n'a pas réponse à tout. Et lui, ce qu'il faisait, c'était que bon, c'est un Balinais, c'est un des acteurs du Mahabharata de Peter Brook là, il y a quelques années, et il répondait aux gens. Par des donc ça fait plus partie de sa culture quoi hein, par des histoires, par des contes, et j'avais trouvé ça formidable parce que ça permettait, enfin je m'étais dit ça à l'époque, donc ça permettait de répondre à une question pas de manière frontale, et c'est vrai que c'est ce que font les contes, ils te racontent un truc en t'embrassant, mais réellement c'est comme s'il y a des bras qui en t'embrassant, bon ben viens ici, je vais te raconter un truc, et puis ça fera son trajet ou pas, peut-être tout de suite, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, et ça c'est merveilleux. Et voilà, après j'y avais plus pensé, et puis ben j'ai continué mon parcours théâtral et j'ai rencontré un homme qui est un des référents, on va dire, des anciens du conte, qui s'appelle Henri Gougaud, qui m'a lancé en fait dans cette aventure du conte et de l'écriture. J'avoue que j'ai beaucoup de plaisir maintenant à écrire.
Et c'est des histoires d'Henri Gougaud que vous comptez là en ce moment en
là, désert. La fenêtre d'en face, oui. Je ne fais pas que ça, évidemment. Mm-hmm. Ce sont des nouvelles que j'ai adaptées d'un recueil de nouvelles dont il est l'auteur, qui s'appelle Département et territoire d'outre-mort, et qui est de la, qui, voilà, qui est dans la veine de la littérature fantastique.
Alors ce spectacle, on peut le retrouver à quel moment là encore dans cette semaine,
vas-y, dis-nous tout. Ce soir à 18h à Saint-Frézal de Vintalon.
Alors justement, ça c'est une représentation qui malheureusement a été annulée à cause des conditions météo.
Et hashtag oui. Neige.
C'est ça.
Et alors, j'imagine hashtag déception, parce que je crois qu'à Saint-Frézal, il s'était mobilisé pour une soirée exceptionnelle.
Hein. Mobilisé, il y avait beaucoup de préparatifs. Et voilà, malheureusement, ça.
Alors, on espère que la neige n'empêchera pas Entrenasse demain à 19h pour l'annonce.
Plus près des on peut peut-être faire une annonce. Oui, si plus près des Cévennes, il y a une salle disponible sans devoir passer par les petits chemins.
19h mercredi à Entrenasse pour la soupe, 20h pour le spectacle. Et jeudi, pour les Mandois, c'est plus près, jeudi Badarou à la salle des fêtes, 20h la soupe, 20h30 le spectacle. Faudra manger vite sa soupe. Hein.
Très bien. Et vous avez proposé aussi
Non,
un...
nous on a une petite salle là pour ce soir s'il faut, non on peut trouver un petit public. Hein.
Je sais plus ce que je voulais dire. Tu m'as
perdu le pauvre.
Oui, non, vous avez proposé aussi un stage. Vous le disiez tout à l'heure. C'était le week-end dernier, c'est ça?
Voilà. C'était samedi et dimanche dernier. Il y a eu 14 participants. Ouais, c'était costaud.
Sur le corps en mouvement, hein, c'est ça?
Le corps des mots.
Le corps des mots, pardon.
Le corps des mots. Mmh. Voilà, donc on a travaillé.
La semaine dernière, je crois, au lycée.
Ah, c'est possible, ouais.
Comment?
Non, la semaine dernière, on a fait une émission avec une danseuse, donc le corps en mouvement, le corps des mots.
Oui, c'est ça, je confonds. Les mots, c'est un peu ça l'idée, c'est que la structure d'une phrase peut être prise, ou les mots eux-mêmes sont vivants, quoi. Donc peuvent être pris comme un corps, et peut-être toute une phrase et tout un texte, comme une... Si on arrive à danser, non pas seulement avec les mots, mais faire danser les mots, c'est super, en fait... Enfin, dans les mots, c'est comme ça qu'on le dit. Après, il faut pratiquer. Il faut faire en sorte que chaque stagiaire... Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas. C'est que chaque participant puisse au moins repartir avec un petit... quelque chose qui s'est un tout petit peu débloqué. Parce que, généralement, c'est ça. Hein, on est plus encombré... On a plus besoin de se... C'est pas d'apprendre à ajouter quelque chose, c'est d'apprendre à enlever quelque chose. Généralement, c'est ça qui se passe. Mais bon, en un week-end, on peut pas non plus tout faire. Juste essayer de faire des micro-miracles, quoi. Ah, il s'est produit des choses.
Oui, moi, j'ai eu un petit écho à la maison. Et c'est vrai que le stage, il a été très apprécié. Mm. Oui, je crois qu'en plus, oui, elle m'a dit que c'était très intéressant de pouvoir écouter tout le monde et puis que chacun ait eu l'impression d'avoir vraiment un moment à soi quand même.
Ouais.
Et que voilà, tout le monde avait vraiment pu participer et que tout le monde a eu le temps, donc elle était ravie.
Ouais. Ouais, oui, c'est super.
Mais c'est
ce qu'ils m'ont dit aussi. Ouais.
Clara, c'est une volonté d'avoir toujours ce temps de stage aussi proposé dans le cadre du festival?
Oui, alors moi j'ai pas, comme je suis assez récente dans l'organisation de ce festival, je sais pas l'historique, mais oui, chaque année on propose un stage qui est rapidement complet, parce qu'il est assez, il y a des fidèles du stage, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent participer, et puis le nombre de personnes n'est pas illimité, parce qu'il faut des petits effectifs pour que ça puisse être profitable pour tout le monde.
Très bien. Merci pour ça. Julien, peut-être on peut... Alors, Caroline, tu nous disais qu'il y avait un spectacle interdit au moins de 16 ans,
dans le programme.
et puis un spectacle pour maternelle. Alors, quelles sont les propositions que vous faites dans le cadre de cette semaine, cette quinzaine de contes et rencontres?
Alors, oui, clairement, comme on a dit, on a pris deux extrêmes. Il y a un spectacle qui s'appelle « Je tue, il nous vous elle », et alors qui parle du fantasme qui est clairement réservé au public ado et adulte. Après, les parents choisissent un peu pour ce qui est des ados, la limite qu'ils ont envie de fixer. Mais on parle très clairement de sexe et puis alors surtout de l'imaginaire lié à la sexualité. Donc le fantasme, c'est autre chose que la pratique. Je disais hier, dans la pratique, on est limité par son corps, par sa morale, par la société. Dans les fantasmes, on peut se permettre beaucoup, beaucoup plus et on n'explore pas toujours pleinement ce potentiel. Donc ce spectacle, c'était l'idée d'abord chez moi, d'aller chercher les limites, d'aller un peu plus loin, de dire mais en fait il y a du plaisir et il n'y a aucune honte à aller se chercher à l'intérieur de soi des espaces de liberté. Et puis après, j'en ai fait profiter les gens en essayant de respecter tout un chacun. Et jusqu'à maintenant, il y a plutôt des bons retours là-dessus. Les gens aiment aller comme ça à la conquête de ce territoire, l'imaginaire fantasmé, érotique, intérieur.
Alors c'est rigolo parce que c'est vraiment ça et c'est très réussi dans le respect des uns et des autres. Alors c'est un peu timide au départ, les premiers qui ont... Parce que c'est drôle, hein, bien évidemment. Alors bon, les premiers, on rit un peu en regardant ses voisins pour voir si ça fait rire tout le monde. Et puis après, la salle se lâche un peu plus et ça marche bien. Et puis vous avez au milieu... Enfin, alors je ne sais pas si chaque fois le spectacle est monté de la même façon, mais cette histoire qui emmène... Là, pour le coup, c'était une spectatrice au Monastier. Et du coup, la salle adhère parce que...
Voilà, on alterne pas mal entre des choses où on va solliciter une réaction franche, où on va rigoler vraiment, et puis le côté plus poétique et qui parfois peut poser une tension, un silence.
Alors, c'est très poétique, hein, voilà. C'est pas du tout ni vulgaire, ni gras, ni je sais pas, mais c'est très poétique.
Beaucoup une recherche là-dessus, de rassurer quand même les gens et puis les emmener plus loin que ce qu'ils peuvent s'attendre. Alors, chaque public est différent, mais c'est vrai que souvent, il y a parfois un petit peu quelque chose à dérouiller hein, dans la relation. Et à la représentation qu'on a eue dimanche, les gens sont sortis, je crois, assez touchés. Et en tout cas, il y en a plusieurs qui m'ont dit, en tout cas, ça sort de l'ordinaire.
Il faut dire, la moyenne d'âge était un peu élevée quand même. Hein, il y avait pas mal de têtes blanches. Donc moi, j'étais au fond de la salle. J'étais un peu intriguée, puis un peu curieuse de voir justement comment... Et ça marche bien. Et alors moi, je vous recommande. Hein, alors, je sais pas quel jour, c'est ça un peu l'embêtant, mais je vous recommande d'aller prendre le tram en 2023 à Bruxelles quand même. Voilà, si vous pouvez passer votre année à Bruxelles et prendre le tram tous les jours, je vous le recommande fortement.
Pour ceux qui ont vu le spectacle, ceux qui n' ont pas compris, ils peuvent toujours nous rejoindre.
Ils peuvent, aller voir.
Alors, ce spectacle, quand est-ce qu'on peut le voir?
Eh ben, c'est ce soir. Hein.
C'est la dernière, donc si vous voulez savoir quand prendre le bus à Bruxelles, c'est ce soir.
À Brenou-Langlade, à 20h30, avec, je pense, la soupe avant le spectacle.
19h, ouais, le plateau repas.
A priori, la réservation pour la soupe est complète. Et il faut réserver pour le spectacle, puisqu'il y a pas mal de réservations déjà.
Ah oui, donc le spectacle est presque complet, c'est ça qu'on disait tout à l'heure.
Oui, apparemment, il ne reste plus des masses de place. Voilà.
Il faut vous dépêcher.
Et alors, bon, s'il n'y a plus de place, vous pouvez toujours vous rattraper demain, mercredi matin à Florac, alors avec les contes, là, cette fois pour la jeunesse, à partir de 3 ans, donc ça sera moins.
Alors,
c'est moi dans le fantasme.
Quelle est la proposition?
on reste quand même. Moi, j'ai cet amour du côté taquin, de l'humour, du délire. Donc, on reste quand même dans des propositions qui sont pas forcément sages et surtout qui peut faire rire tout le monde. Donc, on parlait tout à l'heure à un moment de tel bout d'histoire. Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que il y a quand même des clins d'œil aux adultes dans tout ça? Mais bon, l'idée de base, c'est quand même de partir de l'univers du conte merveilleux, du conte de fées. Et puis de l'emmener dans des chemins un peu surprenants, un petit peu moins gentillets que ce que les gens s'imaginent que ça peut être. Quoi.
Très bien, ben voilà.
Contes pour enfants turbulents, c'est mercredi à la bibliothèque de Florac, à 10h. Voilà. 10h30, pardon.
Alors, on a des programmes partout en Lozère, tout le monde l'a vu, hein. Mais peut-être un site internet pour le retrouver? On n'a pas réussi à récupérer le programme, peut-être.
Foyer avec un S-du-6 ruraux.com.
Et pour réserver.
Facebook également.
Ouais. Pour réserver, comment il faut faire? Il faut appeler, il faut plutôt prendre contact avec le foyer rural.
Donc, pour les spectacles en tournée, donc pendant les 2 semaines, sauf si c'est mentionné, il n'y a pas besoin de réserver. Quand c'est mentionné, il y a un numéro de téléphone à côté, donc le numéro de téléphone du foyer rural qui accueille. Et pour la soirée d'ouverture et de clôture, donc il ne reste plus que la soirée de clôture, c'est auprès de la fédération qu'il faut réserver. Donc le numéro est sur le programme, c'est le 04 66 49 23 93.
Voilà, comme ça les infos sont passées. Et on se retrouve juste après la virgule pour le portrait chinois.
Oui.
Ah ben non, ça...
À la pêche des cœurs, je ne veux plus aller. Je ne veux plus ma mère. Y en a trop de douleur quand l'amour s'envolait et laisse ces pauvres gars qui pleurent. Ma cocotte, elle est partie avec un vilain bonhomme. Je suis seule toute la nuit. Pas possible faire un somme. À la pêche des cœurs, je ne veux plus aller. Je ne veux plus ma mère. Y en a fini bonheur quand l'amour s'envolait et laissait larmes amères. Au bistrot d'oncle Fernand, c'est le calypso qui commence. Je vais passer un instant, mais je resterai sur mon banc. À la pêche des cœurs, je voulais plus aller. Seigneur, la belle fille, elle a les lèvres rouges et des grands yeux qui brillent. Je crois pas que je la connais. Voulez-vous danser, mamselle, pour consoler un pauvre homme? Mais monsieur, je suis pucelle. Oh, mademoiselle, soyez bonne. À la pêche des cœurs, je voulais plus aller. Mais vous êtes très jolie. Et si je vous le dis, ce n'est pas un péché. C'est la vérité, mamie. Suivez-moi sous les palmiers. Mon Dieu, quelle jolie robe! Il vaudrait mieux l'enlever pour ne pas risquer de la gâter. À la pêche des cœurs, je ne veux plus aller. Mais dites-moi, friponne, où vous avez trouvé ces beaux petits tétés et ce corps qui s'abandonne? Donnez un baiser, mamie, pour faire plaisir au pauvre homme. Restons là toute la nuit, ma douleur elle est partie. À la pêche des cœurs je ne veux plus aller, car j'ai fait bien belle prise. Elle vient d'enlever sa petite chemise et je vais me régaler. Et je vais me régaler. Et je vais me régaler.
Loz Actuali.
Alors, c'est pas la virgule qui est partie.
Et non,
hein.
C'est pas la virgule qui est partie, c'était la chanson de Julien, son choix musical. Alors, pourquoi ce choix ?
Oh ben, on était sur ce spectacle de conte érotique et puis tout cet imaginaire. Et moi, cette chanson de Boris Vian, ben, elle m'a toujours beaucoup touché à ce niveau-là, d'une sensualité, de parler de sexualité, mais dans une douceur extrême que moi me touche. Voilà.
Bon, alors pendant cette pause musicale, on a décidé de supprimer le portrait chinois. Voilà. Mais par contre, de vous proposer deux petits extraits, de petites choses. Voilà.
Petites histoires.
De petites histoires.
Puisqu'on compte des histoires.
Et je sais pas, qui veut commencer
Faut désigner.
Bah, allez, Julien.
Il
y a une impatience.
C'est parti.
Ta petite grenouille va entendre aussi.
Ouais. oui, voilà. Donc, moi, je raconte cette histoire. Souvent, je la raconte avec les enfants pour illustrer cette idée qu'on peut partir sur des choses un petit peu coquines, même quand les enfants sont là. Il y a cette histoire d'un vieux, qui traînait souvent dans les parcs pour lire ses romans. Il aimait ça. Et puis un jour, voilà, qu'il pleut, donc il protège vite son livre en le mettant dans sa poche. Il commence à se mettre en route pour rentrer chez lui, mais il entend une petite voix qui l'appelle. Psst, psst. Il tourne la tête et il aperçoit au pied de la mare, au milieu du parc, il y a une grenouille. Une grenouille qui lui dit Hé, vieil homme, regarde-moi, j'ai l'air d'une grenouille, je sais, mais si tu m'embrasses, je prendrai la forme d'une jolie princesse et je t'emmènerai chez mon père, le roi, qui nous mariera tous les deux, on vivra heureux et on aura beaucoup d'enfants. Le vieil homme, il entend la grenouille qui dit tout ça, ben, il se penche, il nettoie ses lunettes comme s'il voulait s'assurer d'avoir bien vu, bien entendu. Ben, la grenouille, elle insiste. Elle dit « Mais oui, vieil homme, c'est moi qui parle. Je te dis que si tu m'embrasses, je deviendrai une jeune et jolie jeune femme, bien avantageuse, blonde, avec tout ce qu'il faut. Je t'emmènerai chez mon père qui nous mariera, qui te donnera beaucoup d'argent, on vivra heureux, on aura beaucoup d'enfants et tu imagines comment on vivra, quoi. » Le vieux ramasse la grenouille et il la met dans sa poche. Et il commence à se diriger pour rentrer chez lui. Alors à l'intérieur de la poche, la grenouille est vraiment, vraiment en colère. Elle commence à hurler. « Oh, vieil homme! Mais t'es idiot ou quoi? Je suis une belle gonzesse avec des gros seins, avec des lèvres pulpeuses. Si tu m'embrasses, je prendrai une forme incroyable. Je t'emmènerai chez mon père qui te donnera du fric. Et puis on fera plein de cochonneries. Alors qu'est-ce que tu veux ?» Et là, le vieil homme, il tapote sur sa poche et il dit « Tu sais, à mon âge, c'est beaucoup plus drôle d'avoir une grenouille qui parle. »
Bien, merci, 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 Julien. On va passer la parole.
Sur ce
sans enchaînement. Hein.
Sans transition, je vais te raconter une petite blague.
Oui, voilà, une petite blague.
De toute façon, les blagues sont des petites
Une blague belge ou...
non, c'est pas une blague belge, les blagues...
Non, vous savez, il y a un peu de...
Non, il n'y a pas de... Enfin, non, si vous voulez,
nous,
on se moque. Une femme belge.
Non, mais je crois
et
qu'on
un chien belge.
Non, je crois qu'on se moque, nous, des belges, des blagues belges, surtout.
Oui, c'est vrai, les Français.
Mais en même temps, vous nous exportez des humoristes belges en France.
Pas mal. Hein.
Ouais. Bon, allez, on vous écoute.
Alors, c'est l'histoire d'une femme qui arrive dans un cinéma avec son chien. Et elle s'installe dans le cinéma, elle met son chien à côté d'elle. Et le chien s'installe sur le siège, assis, la gueule face à l'écran. Et pas loin de là, il y a un homme qui vient s'installer aussi. Il vient au cinéma, il s'installe sur le siège et il voit cette femme et ce chien installés. Bon, voilà. Et le film commence. Et pendant tout le film, le chien, il réagit à toutes les scènes qui font peur. Il dresse les oreilles, il y a ses poils qui se dressent sur tout son corps. Les scènes tristes, il fait il pleure comme ça. On dirait qu'il rigole, il glapit comme ça, il bave aux scènes drôles. Enfin bon, il réagit à fond au film. Alors, le film se termine et le mec à côté, il voit tout ça. Donc, il a vu tout ça pendant le film, il trouve ça hallucinant. Et à la fin du film, en sortant du cinéma, il va vers la dame et il dit « C'est quand même incroyable, votre chien, comme ça, il réagit au film. Et pendant tout le film, il comprend tout, il réagit, c'est extraordinaire. » Et la femme lui dit « Bah, oui, moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre qu'il réagisse autant parce qu'il n'a pas aimé le livre. »
Merci, bravo. Bravo à tous les deux pour.
Merci bien.
Merci pour. Fait. Voilà. Donc, voilà, le programme donc, de Contes et Rencontres, c'est encore pour la dizaine de jours qui est devant nous. Donc, il faut en profiter à retrouver sur Internet et de partout, puisque c'est vrai qu'on a vu ce programme un peu de partout. Donc, voilà, il faut en profiter. Merci beaucoup d'être venu. On va vous libérer merci. Parce que je crois que.
Merci bien.
Voilà, il y aura
merci à vous.
Très
merci.
Certainement quelque chose pour la soirée de clôture sur 48FM. Voilà, on va y travailler encore, c'est dans quelques jours, mais voilà, on vous annoncera tout ça évidemment dans les infos de 48FM. Mais voilà, c'est en train de se mettre en place, donc on vous tiendra informé. Merci beaucoup et bon
appétit.
Oui, bon appétit et
bon festival.
Bon festival, profitez bien de la Lozère dans ces beaux paysages enneigés.
Allez, voilà. Merci beaucoup,
merci.
Et on rappelle que la soirée de ce soir est annulée à Saint-Frézal.
Voilà. Celle de Saint-Frézal.
Voilà.
Donc rendez-vous à Entrenas.
À Entrenas.
À Badarou.
Voilà.
Voilà, mercredi ou jeudi.
Très bien. Allez, une petite pause musicale, le temps de permettre à nos invités
changer de plateau.
Voilà, de quitter le studio.
She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. Yeah, twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. Yeah, twisting the night. Let's twist the one.
Et voilà, on se retrouve pour une deuxième partie de l'émission qui va être où on va condenser un petit peu plus les chroniques de l'équipe. Et on commence tout de suite avec Eric.
Oui, alors si je vous dis UBS Leaks, HSBC, LuxLeaks, Panama Papers, vous pensez à
des grandes affaires, des leaks.
Voilà. Ont été révélés par des citoyens lambda.
C'est ça. On n'a jamais autant parlé de corruption, de fraude et donc de lanceurs d'alerte. Mais quel est le but de ces lancements d'alerte ? Éclairer la société sur ses dysfonctionnements et les réparer. Alors ça, c'est pour les gros titres. Parce que moi, je vois, j'ai déjà essayé un peu de lancer des alertes, mais je serais plutôt dénonciateur à tendance râleur. Alors bon, c'est un peu vrai, je suis dénonciateur à tendance râleur, professionnel, à défaut d'être un réel lanceur d'alerte. Il faut dire aussi que lorsque je dénonce le favoritisme supposé pour certaines associations de la ville, cela ne mérite peut-être pas une enquête approfondie d'Élise Lucet pour Cache Investigation. Alors, j'étais en train de préparer ma chronique sur ce sujet ô combien sensible des lanceurs d'alerte que mon petit bonhomme se pointe et me demande ce que je peux bien être en train d'écrire. Alors, c'est un problème pour les grands que je lui réponds. Alors, comme il n'est pas du genre à se décourager, il insiste. Alors, je lui donne le thème. Et là, je vous le donne dans le mille. Papa, tu peux m'expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche? Bien sûr, mon petit gars, c'est mon rôle de père de t'éduquer et te donner des infos sur des sujets aussi importants que celui-là. Donc voilà, je lui explique. Tu sais, les lanceurs d'alerte, c'est un peu comme tes héros préférés. Ils sont souvent anonymes au départ jusqu'à ce qu'ils décident de dénoncer des agissements, pour protéger la population, la veuve et l'orphelin. Bon, si on y réfléchit, cela a commencé depuis assez longtemps. Ainsi, un jour de 1898, un dénommé Zola, Émile de son prénom, a écrit l'un des papiers les plus engagés qu'il soit de tous les temps, avec son J'accuse, dans lequel il évoquait l'affaire Dreyfus et par là même nous renseignait sur le traitement par l'armée de certaines communautés. Alors, de nos jours, on n'est pas obligé d'être un écrivain reconnu pour dénoncer une affaire aussi importante. Des petits, des inconnus, des solitaires se lèvent et sortent du rang, la besace chargée de secrets qu'ils estiment devoir nous révéler pour nous protéger. Les plus célèbres se nomment Manning, Snowden, Assange, mais aussi Irène Frachon, ou encore les banquiers Falciani et Condamin Gerbier. Ils sont considérés aussi bien comme des héros des temps modernes. Tu vois, mon fils, ce sont des personnes ô combien importantes. Ils défient seuls les puissantes institutions. Bon, pour d'autres, ils sont aussi considérés comme de simples balances, ou pire, les complices des ennemis à qui ils révèlent des secrets d'État. Alors, dans notre époque si soumise aux principes de précaution et face aux fantasmes complotistes, dans ce monde où il ne se passe pas un jour sans qu'une alerte météo soit lancée, alors, il y a aussi les alertes sanitaires ou alimentaires. Mais les lanceurs d'alerte sont devenus une voix de plus en plus recherchée et écoutée, mais aussi critiquée. Elle ou il peut aussi bien être dénonciateur des vérités cachées et révéler des scandales délictueux que prévenir d'une menace qu'il repère dans son domaine, le plus souvent environnementale ou médicale. Irène Frachon est les deux. Lanceuse d'alerte lorsqu'elle détecte dès 2017 des pathologies cardiaques chez des patients traités par le Mediator, alors largement utilisé comme coupe-faim. Et dénonciatrice lorsqu'elle engage le bras de fer avec le puissant laboratoire Servier. Elle est devenue l'égérie des résistants au lobby industrialo-pharmaceutique. Alors, ces personnes maintenant sont protégées. Ça n'a pas toujours été le cas. Il existe maintenant une loi, justement, pour les procédures d'alerte dans toutes les organisations de plus de 50 salariés. Et à condition de bien suivre la procédure, justement, cette loi est devenue très protectrice. Et pour dénoncer, ces lanceurs d'alerte, ils travaillent souvent avec certains journalistes. C'est des journalistes en qui ils ont confiance, parce que ce sont des journalistes qui sont à la fois corrosifs et sans complaisance. Ils en font des sortes de gardiens de la cité. Et à ce titre, le journalisme d'investigation est par essence, lui aussi, lanceur d'alerte. Alors, dans l'émission, on aime bien parler nouvelles technologies. Alors, il existe aussi maintenant des applications pour dénoncer, comme celle de la FRAPNA et ses sentinelles de l'environnement, ou encore avec Expédition 7e Continent, qui présente une application mobile participative permettant à chacun de géolocaliser et de témoigner en photo et en vidéo pour dénoncer tous ces petits coins de rue qui sont laissés à l'abandon, ou ces bas-côtés de route, ou les berges des fleuves. Alors, j'ose espérer que j'ai pu vous intéresser autant que j'ai pu le voir dans les yeux si captivés de mon fiston. Quelle fierté de le voir si jeune s'intéresser à des sujets si sensibles. Je peux vous le dire, c'est déjà un citoyen modèle. Bon, à la fin de mon explication, il a tout de même tenu à m'exprimer comme un léger malentendu. Ah. Non, parce que moi, c'est de savoir comment lancer Arlette qui m'intéressait, parce qu'il y a une Arlette à l'école. Et cela m'aurait drôlement amusé de pouvoir la lancer. Ah les gosses, je vous jure.
Je reconnais bien ton fils, là.
Voilà. Alors pour ça, tu demanderas Superman. C'est un autre genre de super-héros. Alors, mais lorsque des sujets sont si importants pour la société, et donc pas seulement pour l'amusement de mon fiston, qu'il faut les dénoncer, les lanceurs d'alerte le font sans haine et sans violence, pour expliquer sans imposer. Ne pas perdre de temps avec ceux qui ne veulent pas entendre, ceux qui ne veulent pas faire avancer les choses, et semer les graines du futur pour un monde un peu meilleur demain pour Arlette et mon fiston.
Merci Eric, on va tout de suite...
Quel est le sort réservé à Julian Assange? Ça devait se jouer dans ses heures, non?
Oui, mais c'est pas encore... c'est pas encore fait. C'est pareil, Edward Snowden qui est resté dans un aéroport en attendant de savoir qui c'est qui allait bien vouloir l'accueillir.
Et oui. Manning, pas facile quand même la vie.
Et Manning qui n'est plus tout à fait Manning, enfin qui est plus le même ou la même Manning.
Bien, tout de suite après la virgule, c'est la chronique de Caroline.
Loz Actuali.
Allez Caroline, c'est à toi une question de série.
J'ai encore la bouche pleine, je suis désolée.
Avec TF1 qui fait sa mue, tu disais.
Oui, alors, c'est ce qu'ils promettent en tout cas. J'ai entendu le directeur des programmes dans une émission d'une grande chaîne de radio hier. Et effectivement, ils ont l'envie. Alors, vous savez que TF1 en ce moment fait la une avec, pour ses conflits avec les opérateurs de téléphonie qui distribuent ces chaînes sur leur box. Alors, si des accords ont pu être trouvés, je crois, avec SFR ou avec Free. Avec Free,
non,
je crois.
Non, avec SFR.
Avec SFR. C'est pas le cas pour l'instant avec Orange. Et donc
Free.
Et donc, les abonnés de ces deux opérateurs sont actuellement privés des chaînes de TF1. Tout ça pour dire que TF1 cherche actuellement de nouveaux revenus parce que tout ça coûte très cher, mais se lance en tout cas dans une volonté de fictionner différemment et de retrouver un peu de crédibilité dans ces fictions. Et le premier pas a été lancé hier soir avec la mini-série Les Bracelets Rouges. Donc, série qui a été lancée à 21h, deux épisodes, qui a tenu en haleine quand même 5,5 millions de spectateurs jusqu'à 23h. Le top des audiences, hein, TF1 se retrouve en tête. Alors, bien évidemment, tout ça m'avait intriguée et je suis allée voir par curiosité. Donc, c'est une série qui se passe dans un hôpital pour enfants et adolescents. C'est à Arcachon. Alors, si les parents de ces adolescents sont un petit peu connus, hein, puisqu'on retrouve Michael Young qui joue le rôle d'un papa, Camille Lou, Audran Catin, Tom Rivoire. Les ados, eux, le sont un peu moins. C'est peut-être les stars de demain. En tout cas, ce sont eux qui sont très attachants, puisque c'est eux que l'on suit dans ces épisodes. Alors, c'est un petit groupe de quatre, hein, qui s'est formé hier soir. Alors, je ne vais pas spoiler du tout la série, ni ceux qui n'auraient pas vu. En tout cas, effectivement, comme le promettait le directeur des programmes de TF1, c'est une série un peu nouvelle. Alors, ce n'est pas une énième série médicale. Hein, Le décor est à l'hôpital et c'est vrai que dans ce huis clos un peu tragique, hein, puisque ces enfants ont quand même des pathologies assez lourdes. Deux sont amputés d'une jambe, une est anorexique et le quatrième a eu un grave accident de moto.
C'était les télé-réalité de M6, ça, non?
Ouais, voilà. on suit leur parcours. Bon, il y a un cinquième enfant qui est dans le coma. Ben voilà, on suit ces parcours-là, on suit aussi leur envie de d'être ensemble, de s'en sortir et d'aller vers du positif, même dans des moments un peu graves. Bon, pour l'instant, ça fonctionne bien. Alors, il faut savoir que c'est pas inédit, hein, puisque cette série a d'abord été tournée en Espagne. C'est la biographie de Albert Espinosa, qui est auteur espagnol. Donc, c'est une reprise française. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne bien. C'est vrai qu'on est impatients de savoir un peu ce qui va leur arriver dans les prochains épisodes. Donc, voilà, un truc. Vous avez une semaine pour revoir le replay de ces deux premiers épisodes.
Et non, parce que
si vous avez la bonne,
si vous avez la bonne box.
Si vous avez la bonne box, voilà. Ou si vous êtes sur la TNT, bien sûr, puisque ça marche encore.
Oui, c'est mais tu veux pas le replay, ça marche moins bien sur la TNT.
Ouais, c'est vrai. C'est réalisé par Nicolas Cuche. Et Nicolas Cuche a travaillé en lien très étroit avec Albert Espinosa, l'auteur, qui a appris notre langue pour pouvoir participer au travail de cette série de TF1. Voilà, donc écoutez.
Joséphine Ange-Gardien.
Ça change un peu.
Un peu peur maintenant, c'est ça.
Elle tremble.
Elle tremble, Joséphine.
C'est Amandine Bourgoin pour Paris Match qui donne trois raisons de ne pas manquer cette série. des personnages complexes et attachants, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un casting de futures stars, hein, alors je vais quand même les citer. Donc Audran Catin, Tom Rivoire, Esther Valding, Luna Espinosa et Azizeh Diabaté Abdoulaye et Marius Blivet. Voilà, cinq petites nouvelles têtes à découvrir qui nous font passer parfois du rire aux larmes dans cette série. Et la troisième raison de ne pas le louper, c'est que c'est un sujet sensible, traité avec délicatesse, franchise et humour. Parce que c'est aussi drôle par moments, la série n'est pas du tout plombante, elle ne tombe pas du tout dans le pathos non plus. C'est plutôt sympa.
Bon, ben voilà, c'était le conseil télé de Caroline voilà. pour cette chronique. Et tout de suite après, c'est la chronique hashtag.
Loz Actuali.
Et les hashtags de la semaine, on va les faire très rapidement pour que, puisqu'on est un petit peu en retard. Le hashtag de la semaine en Lozère, c'est le hashtag neige, hein, puisque
il y a changer.
Voilà, pour changer, mais c'est vrai que là, il y a ce qu'il faut. Donc, évidemment, tout le monde poste la photo de la neige devant chez lui, de ses différentes difficultés de trajet parfois, même si j'ai l'impression que ça c'était un petit peu mieux cette fois-ci. Il y a moins eu de gros blocages comme les épisodes précédents. Donc voilà, le hashtag neige pour cette semaine.
Après, il y a peut-être un peu trop de précautions maintenant même. Hein.
Peut-être, oui. Et puis donc pour le national et l'international, bah c'était un petit hashtag Michelin 2018. Hein, c'était l'actualité hier. Ça a fait un peu le buzz hier. Donc avec les nouveaux étoilés, évidemment, donc deux nouveaux trois étoiles français, mais surtout aussi un petit coucou sympathique à notre étoilé lozérien qui reste étoilé et qui garde son étoile et donc qui poursuit et
qui relance l'invitation.
Cyril on vient le voir chez Camillou à Aumont-Aubrac.
On voilà. vient le voir quand il veut.
Voilà et puis donc à noter que ça avait déjà été publié il y a quelques jours. Les bibes gourmands, donc qui reconnaissent aussi des bonnes tables, mais qui ne sont pas étoilées, mais plutôt pour l'aspect gourmandise et etc.
Avec convivialité.
Et convivialité, ouais. Donc avec la brasserie de Cyril Atrazic à Aumont-Aubrac en plus du restaurant et un nouveau lieu qui est
dans les Gorges de la Jonte.
Voilà, à Merveilles, il me semble. Hein.
Pas Merveilles exactement. Rosier ou.
Voilà, bon, voilà. On vous mettra ça sur la page Facebook. Bon, voilà pour les hashtags de cette semaine. Bon, voilà, c'était quand même aussi l'occasion. Allez, juste après, la revue de presse.
Loz Actuali.
Allez, on commence avec Eric. Eric qui. On parle aussi de neige.
C'est ça, puisque vendredi, enfin ce week-end, commencent les Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud. Donc c'était plus pour revenir un peu sur le côté diplomatique, entre guillemets, vu qu'il y a quelques petites tensions, mais rien de bien méchant avec la Corée du Nord depuis quelques temps au niveau international. Et donc tout le monde commençait quand même à s'inquiéter un peu de savoir... S'il y aura une trêve olympique, donc a priori oui, il y a bien une trêve olympique, vu qu'il y aura une délégation nord-coréenne à ces Jeux olympiques. Il y aura même une équipe commune
oui, c'est ça.
Sur le hockey sur glace féminin. Bon, a priori, il y aura plus d'artistes nord-coréens que d'athlètes nord-coréens, vu que j'ai vu qu'il y avait des délégations d'artistes.
Des pom-pom girls.
Des pom-pom girls qui sont très attendues. Il va y avoir une chorale, donc voilà. Donc, si la trêve olympique pouvait perdurer, le problème, c'est qu'a priori, ils ont l'air de plus utiliser ça pour de la diplomatie ou pour faire passer autre chose. Mais au moins, c'est déjà un tout petit pas en avant. Il y a un début de dialogue. Donc voilà, c'était pour revenir là-dessus. Puis pour parler du début des Jeux Olympiques, on attend, je crois, en France, quelques médailles. Une vingtaine, je crois. Avec deux, trois têtes d'affiche, dont Martin Fourcade, qui domine le biathlon depuis quelques années et qui sera notre porte-drapeau. Et pour ceux qui s'intéressent aux Jeux Olympiques, je sais qu'il y a une soirée vendredi, enfin non, début de, milieu d'après-midi et soirée vendredi, voilà, au Transfo, donc en bas de la radio.
Organisée par la Ligue de l'Enseignement, voilà, donc une animation autour des Jeux Olympiques
d'hiver.
Voilà, et puis bah, après, bah, il faudra se coucher tard. Faudra se coucher tard après pour regarder les épreuves.
C'est ça, oui, vu que les épreuves auront lieu la nuit.
Ouais. Voilà, ça sera un peu peut-être les finales en tout début de matinée, mais voilà, il faudra vraiment être des levées tôt ou c'est des ça. Couches très 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 tard. Voilà. Bien, merci Eric. On poursuit Revue de Presse et on te remercie, on te salue. Parce que t'es obligé de partir.
À bientôt.
C'est un peu open bar aujourd'hui cette émission.
C'est ça, c'est complètement ça. Caroline, c'est un anniversaire de.
Ah oui, on est le 6 février.
Voilà, 20 ans.
20 ans, donc je pouvais pas ne pas en parler. C'est 20
c'est
ans.
C'est ton édito aussi ce matin, voilà, dans le journal.
20 ans que le préfet Erignac, d'origine lozérienne, a été assassiné en Corse. Alors, j'ai choisi un article pour cette revue de presse de Ouest-France, un article qui a été publié à 11h58. J'ai vraiment attendu le plus loin possible pour essayer d'avoir les informations sur cette matinée qui s'est déroulée à Ajaccio, en présence du président de la République, Emmanuel Macron, et de la famille du préfet qui revenait sur la terre corse pour la première fois depuis 20 ans. Voilà, alors un hommage que la famille avait voulu dans la sobriété. Donc le président Macron a inauguré une place qui porte désormais le nom du préfet dans les deux langues, la langue française et la langue corse. Une place où a été planté un olivier avec gravé sur le sol l'inscription « Un homme, une place » en français, là, cette fois. Voilà, alors la veuve Erignac, Dominique Erignac, s'est exprimée. Sa parole est très rare. Elle était entourée de ses deux enfants, son fils et sa fille. Elle a avoué que revenir en Corse à Ajaccio n'était pas chose facile, qu'elle ne pensait pas revenir sur ces lieux maudits, sont ses paroles. Pour elle, je cite, « cet assassinat a été conduit par un commando terroriste de nationalistes corses, de la plus lâche des manières, la nuit par derrière. » Et elle a ajouté, « derrière mon mari, c'est la République que l'on a voulu abattre. » Le président Macron, lui, a rappelé que ce lâche assassinat était celui du premier préfet à tomber en temps de paix. Hein. Je rappelle que le précédent préfet qui avait été assassiné, c'était par la barbarie nazie, c'était Jean Moulin pendant la guerre. Et Emmanuel Macron a dit « On vit alors la nation se lever et faire bloc autour de cet homme ». Et il a poursuivi en disant « Ce qui s'est passé ici ne se justifie pas, ne se plaide pas, ne s'explique pas. Ce fut un assassinat, un attentat ». Et Emmanuel Macron estime au final que la Corse, terre de fierté et de dignité, a été salie par ce crime. Voilà, on le sait, hein, ça avait été longuement annoncé. Bien sûr, c'est dans un contexte politique très tendu avec les autonomistes et nationalistes corses. Jean-Guy Talamoni n'était pas là, hein, ouais. Il l'avait longuement expliqué. Par contre, son collègue Simeoni était là. C'est lui qui a défendu Ivan Colonna. C'est un des défenseurs d'Ivan Colonna. Donc voilà, toute la difficulté de tout ça. Voilà, là, ça se poursuit les deux jours viennent. Hein.
On peut quand même se féliciter qu'il ait été présent.
Tout à fait,
en tant que
président de Talamoni, inexcusable.
De la collectivité. Non, mais la position de Talamoni, à la limite, sa présence n'était pas souhaitée
oui.
par la veuve du préfet. Donc bon, voilà. Je crois qu'il s'est mis en accord avec cette expression-là.
La famille Erignac hein, a été reçue à l'Élysée il y a quelques jours. Je pense que tout ça a été préparé.
Mais par contre, voilà, le fait que le président de la collectivité territoriale de Corse soit présent, bah, c'est effectivement un signe relativement, on va dire. Et puis c'est vrai qu'il est autonomiste, il est pas nationaliste.
Oui, tout à fait.
Ça explique aussi un peu la différence entre les deux.
Alors bien évidemment, hein, cette visite présidentielle se poursuit ce soir avec la rencontre justement d'Emmanuel Macron et de ces deux hommes. Demain à Bastia, enfin les Corses sont en attente hein, d'un signe de l'État français. Alors, des choses ont été demandées, inacceptables pour certaines, comme l'amnistie d'Ivan Colonna, et d'autres qui seront peut-être faites et acceptées par
Emmanuel Macron demain. Voilà. En tout cas, moi, je voulais en parler parce que ça me semblait important en Lozère. Alors, il y avait une minute de silence dans l'intimité, hein, puisque la presse n'a pas été conviée à midi à la préfecture. Il y aura une cérémonie le 17 février à Florac, en présence de Madame Erignac. Et il y aura un petit moment, pareil, un petit peu dans l'intimité, mais c'est normal, c'est une école. À l'école Claude Erignac, demain matin, avec plutôt les grands de l'école, mais histoire de rappeler qui était cet homme et qui était un grand serviteur de l'État. Et semble-t-il, d'après tous les témoignages, un homme charmant et très sympathique.
Oui, on pouvait le lire d'ailleurs dans Midi Libre, les anecdotes de personnalités lozériennes qui l'avaient rencontré et qui, voilà, qui partageaient des moments sympathiques. Voilà,
et très simple.
Et très simple, voilà, vous pouvez le retrouver dans la presse locale aujourd'hui. Pour moi, dans cette revue de presse, une petite actu d'Europe 1 sur l'Australie qui crée une centrale électrique basée sur 50 000 foyers transformés en par l'équipement en fait de panneaux solaires. Donc c'est un projet financé par le gouvernement local à hauteur de 2 millions de dollars australiens, 1 million d'euros et avec un fonds aussi des contribuables pour les technologies renouvelables. L'entreprise Tesla est vraiment impliquée puisque ces batteries en fait servent pour ce projet.
Tesla, c'est un des leaders de voitures électriques.
Voilà, tout à fait.
Cher, mais très fiable.
Voilà, tout à fait. Et donc voilà, 50 000 foyers qui vont pouvoir faire ce projet-là qui permet d'alimenter 30 000 logements. Donc vous voyez, finalement, c'est quand même pas si mal le rapport entre les deux. Et voilà, ça pourra fournir autant d'énergie qu'une centrale à charbon. Voilà l'idée qui est proposée. Donc, on vous mettra l'article là aussi sur le Facebook. Et puis, alors, deuxième article un peu plus. Vous avez l'habitude avec moi pour le dernier article de cette revue de presse. Avec une question posée par Slate. Pourquoi les gueules de bois empirent avec l'âge? plusieurs arguments, plusieurs explications sont données. Une première qui est sur la question de l'habitude, de l'entraînement que peuvent avoir les plus jeunes sur ces moments festifs, mais aussi une question plus physiologique avec le vieillissement, plus de graisse et moins de muscles, et donc un facteur un peu plus aggravant dans la récupération sur les excès un petit peu de l'alcool, voilà, donc à découvrir cet article de Slate aussi, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on se sent on a plus de mal à récupérer maintenant avec notre grand âge. Ah, voilà. Bon, en tous les cas, on vous souhaite une très bonne quinzaine. Rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission.
L'émission sera rediffusée.
Évidemment, le mardi à 19h, le jeudi à 19h et le mardi à midi et demi. Voilà. À bientôt et en tous les cas, profitez du festival Contes et Rencontres. Voilà, j'espère qu'on vous a donné toutes les infos nécessaires.
Et envie.
Et voilà, et surtout l'envie d'y aller. À bientôt!
Loz Actualité.